Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains du corps des anciens. Occupe-toi de ces choses. Sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. Sois attentif à toi-même et à l'enseignement. Persévère dans ces choses, car en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent.
La dernière fois, nous avons étudié les versets 8 à 12 de ce chapitre 4. Nous avons dit au verset 8, « Exerce-toi toi-même à la piété. » Nous l'avons lu. Ce qui compte dans cet exercice, c'est, nous l'avons rappelé, l'état du cœur. C'est la prière, c'est la recherche de la vérité dans la personne du Seigneur et de Dieu. Au contraire de l'exercice corporel ou physique, dans l'exercice de la piété, on ne va pas se relâcher de temps en temps, parce que nous avons à saisir les bénédictions célestes. La promesse, au verset 8, la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est ici la vie éternelle que nous connaissons déjà sur la terre. Au verset 6, nous avons vu que Timothée avait à proposer ces choses aux frères. Mais au verset 11, nous avons ordonné maintenant ces choses. Proposer, c'est l'humilité. L'humilité dans l'enseignement. Nous avons rappelé qu'un enseignement, c'est proposer quelque chose au cœur pour l'édification. Mais au verset 11, c'est ordonne. Ordonne ces choses et enseigne-les. C'est un commandement. Un commandement, nous avons rappelé, c'est pour le chrétien, c'est la réponse d'amour à l'amour divin. Nous avons vu aussi le verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit le modèle des fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Nous avons dit que ceux qui ont un service public doivent être des modèles, avoir une vie digne du Seigneur. Nous avons l'exemple de Paul en 2 Corinthiens 4, verset 2, qui dit de lui-même, « Nous recommandons nous-mêmes à toute conscience d'homme devant Dieu. » La personne de Paul entière avait renoncé à tout ce qui n'était pas droit, à tout ce qui n'était pas juste, tout ce qui n'était pas du Seigneur.
On peut rappeler aussi que la vie personnelle de piété est nécessaire avant tout service public. Dans le verset 11, ordonne ces choses et enseigne-les. C'est un service public. Celui qui enseigne, le docteur, celui qui présente la parole de Dieu. Et nous voyons donc que dans les versets précédents, les exhortations de l'apôtre Paul à Timothée concernent sa vie privée, sa vie intérieure personnelle. Exerce-toi à la piété, c'est une relation personnelle avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, qui doit être véritable et maintenu. Et c'est dans la mesure où celui qui enseigne a cette vie personnelle avec son Dieu et qu'il est exercé à la piété, eh bien que publiquement il peut intervenir, comme il est indiqué au verset 11, « Ordonne ces choses et enseigne-les ». L'enseignement, qui guide les exhortations, et l'enseignement que l'apôtre Paul dispensait à Timothée nous concerne tous. Elle ne concerne pas, bien sûr, uniquement Timothée. Nous sommes appelés à être exercés à la piété journalièrement, avoir affaire avec Dieu dans tous les détails de notre vie. Exerce-toi à la piété. Il ne faut pas oublier que cet enseignement est dans le cadre de la maison de Dieu. Et le grand enseignement de l'apôtre concerne le bon ordre de cette maison de Dieu. Et nous voyons à travers particulièrement ce chapitre 4 que le maintien de l'ordre de Dieu dans sa maison, dans l'assemblée, est lié à la piété de chacun, est lié à la piété de chacun, que ce soit un homme ou une femme.
Si on prend ces versets 11 à 16 dans leur ensemble, il nous faut les mettre en regard de ce qu'on a lu tout au début de cet épître, chapitre 1er, verset 3, la situation de Timothée, où Paul lui rappelait qu'il avait demandé de rester à Éphèse alors que lui partait en Macédoine, afin que tu ordonnasses à certaines personnes de ne pas enseigner des doctrines étrangères, de ne pas s'attacher aux fables et aux généalogies interminables, etc. Il y avait un contexte autour de lui face auquel Timothée pouvait être incertain, pouvait être dans la perplexité de comment agir, de quand faut-il dire quelque chose par rapport à ces personnes qui apportaient des choses étrangères, de quelle manière faut-il reprendre ces choses-là et que faut-il apporter qui soit la nourriture, la matière pour armer chacun, pour discerner personnellement chacun ces choses-là. Timothée se retrouvait là dans une situation, dans un sens un peu délicate, surtout que verset 12 nous parle de sa jeunesse. Apparemment, le sens du mot concernerait des personnes de moins de 40 ans, donc ce n'est pas un adolescent quand même. Mais voilà, c'est quand même une situation où, quand on a 30, 35 ans et qu'on se retrouve devant un frère de 60 ou de 70 ans qui dit des bêtises, on est embarrassé. Comment faut-il dire ? Comment faut-il reprendre, entre guillemets ? Publiquement en particulier, voilà, il y a tout un registre de choses délicates face auxquelles Timothée était dans des interrogations. Et pourtant, Paul lui dit « ordonne, enseigne ». Et puis, on a déjà vu que personne ne méprise ta jeunesse, ne te laisse pas arrêter par des choses extérieures alors que le Seigneur t'a donné un service. Plus loin, il lui dit « ne néglige pas, verset 14 », le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition de main du corps des anciens. Donc une mission particulière où le Seigneur avait montré que Timothée était choisi pour un service. Ce n'était pas le service de Paul, c'était un service avec Paul. Et puis Paul qui discerne aussi ce qu'il doit lui confier, ce qu'il peut lui confier. Et en ce sens-là, dans tout cet ensemble de versets, on est, comme ça a été dit, dans ce qui est public de ce service de Timothée. Alors, être le modèle, on en a déjà parlé, avec les différentes facettes de cet être d'être le modèle. Et puis, verset 13, jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alors, comme c'est écrit là, ça apparaît pas de façon nette, mais la lecture dont il est parlé là, c'est la lecture de la parole en public. C'est ce qu'on retrouve par exemple, si on reprend simplement dans les évangiles, dans Luc pour le Seigneur lui-même. Sa chose nous est, le déroulement des choses nous est présenté en Luc 4, verset 16. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue au jour du sabbat, selon sa coutume, et se leva pour lire. Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe, et ayant déployé le livre, il trouva le passage où il est écrit, etc. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La lecture de la parole en public, c'était le lieu, le but de la synagogue parmi les Juifs. La synagogue était avant tout un lieu de lecture de la parole et d'enseignement. Et là, il s'agit de la lecture en public qui est suivie, accompagnée de l'exhortation et de l'enseignement. Et je trouve que c'est intéressant de s'arrêter à ça un petit peu. Nous avons tendance peut-être, ce n'est pas systématique, ce n'est pas général, mais nous avons un risque, disons plutôt comme ça, de lire peu et de parler beaucoup. De prendre un demi-verset et de disserter pendant une heure sur un demi-verset. Je caricature un peu. Voilà. Mais bon, voilà, pour faire ressortir, ce que je veux faire ressortir, c'est l'importance de lire la parole, de la lire soigneusement, d'y prendre le temps, de ne pas avoir peur de lire un passage qui a peut-être un peu de longueur. Au-delà du sujet du passage qu'on a peut-être à cœur d'aborder dans un enseignement, il y a peut-être d'autres choses dans le passage qui correspondent aux besoins que nous ne connaissons pas de l'un ou de l'autre. La simple lecture de la parole a une grande importance. Et je rajouterai quelque chose, là il s'agit du contexte public, mais je l'étendrai à ce qui est notre marche personnelle. Récemment, j'ai été amené à lire dans les Nombres le récit de Balak et de Balaam. Je l'ai lu en le lisant à voix haute, moi doucement, mais à voix haute, pour moi-même, tout seul, lentement. J'en ai eu un profit extraordinaire. En intonant ce qui est écrit comme le sens nous le dicte. On a un profit à lire. Pareil, on prend par exemple une épître comme l'épître aux Romains. C'est au fond un discours, l'épître aux Romains, qui est construit, structuré. Rien que le lire pour soi-même à voix haute, on a une édification à cette simple lecture. C'est quelque chose de très précieux qui vaut la peine d'être essayé. On ne va pas toujours le faire. On lit bien souvent juste avec les yeux, la tête, mais de le lire à haute voix, c'est autre chose. Et puis, mettons le contexte complet ici pour Timothée, chacun n'avait pas sa Bible. Chacun n'avait pas une Bible entière. Lire publiquement, c'était enseigner déjà, pour ceux qui n'avaient pas la parole écrite, qui ne savaient pas lire. Donc toute l'importance aussi là, de la lecture, pour donner à connaître simplement ce que dit Dieu, ce que dit la parole. Comment est-il écrit? Qu'est-il dit? Connaître ces choses. On a au début de l'Apocalypse un avertissement qui va aussi dans ce sens, dans les premiers versets, sur lequel il est aussi utile de s'arrêter. Verset 3 du chapitre 1er. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il y avait celui qui lit, et il y avait les auditeurs, ceux qui entendent. Et il y a une bénédiction pour celui qui lit et pour ceux qui entendent, et une exhortation à garder les choses qui sont écrites. Garder les choses, mémoriser les choses qui sont écrites. Et alors avec ce terrain, si on peut dire, qui a été travaillé, cette parole qui a été donnée, cette semence, on prend toutes les images qui nous parlent de la parole, on a la suite qui prend une autre dimension, l'exhortation et l'enseignement. Ces deux mises en perspective différentes de ce qui est écrit, de ce que Dieu nous communique par sa parole, qui ont leur place à côté de la lecture, la parole elle-même, qui reste la base. Je repense aussi en rapport avec ce côté-là, les réformateurs, on retient une des bases, si on peut dire, doctrinales de la Réformation, c'est ce qu'on appelle les cinq solas, ces cinq phrases, il y en a une qui m'échappe toujours. La foi seule, la grâce seule, la parole seule, la quatrième m'échappe toujours, et la cinquième, à Dieu seul la gloire. Et voilà, c'était à ça qu'ils étaient retournés au moment de la Réformation et qui a été leur référence face à l'opposition qu'ils avaient. La grâce, la foi, la parole seule, donc le cinquième, si quelqu'un s'en souvient, il pourra le dire, et puis le cinquième, à Dieu seul la gloire. Un seul Seigneur. Peut-être, oui, c'est possible, oui.
On peut lire aussi dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13. Donc c'était bien une coutume dans les synagogues, le jour du sabbat, de cette lecture publique. Mais on voit qu'en Actes 13, au verset 16, il est dit, et Paul s'étant levé, ayant fait signe de la main, dit, homme israélite, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Et donc, nous voyons la présence de Paul, et il nous est dit au verset 15 qu'il se lève après la lecture de la loi et des prophètes. Les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. » Et Paul s'étant levé, ayant fait signe de la main, dit. La lecture de la parole de Dieu est la base de toute instruction chrétienne. Et la lecture de la parole de Dieu doit être faite avec un esprit de soumission et de bonne disposition pour l'écouter et pour lui obéir. Et cela est nécessaire pour que cette lecture porte du fruit. La lecture de la parole de Dieu public, eh bien, elle doit être faite comme nous l'avons fait tout à l'heure au début de la réunion d'études, et elle doit être faite et aussi écoutée avec un esprit de soumission. Pourquoi ? Mais c'est Dieu qui nous parle, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand nous sommes réunis, que ce soit en réunion d'édification ou d'études, eh bien, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons bien comprendre que Dieu nous parle. Et Dieu veut que nous soyons un esprit dans sa présence et que nous soyons attentifs à ce qu'il nous dit. Et il nous parle d'abord par sa parole elle-même. Après, il peut avoir des intervenants, des prophètes, des docteurs qui vont expliquer, qui vont exhorter, qui vont enseigner. Mais premièrement, c'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu et c'est Dieu qui veut que nous l'écoutions. Nous avons un exemple dans l'Ancien Testament. C'est dans Néhémie au chapitre 8. Il nous est dit, au premier verset, « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse que l'Éternel avait commandé à Israël. Et le premier jour du septième mois, Esdras, le sacrificateur, apporta la loi devant la congrégation des hommes et des femmes, et devant tous ceux qui avaient de l'intelligence pour entendre. Et il y lut devant la place qui est devant la porte des eaux, depuis l'aube jusqu'à midi, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui avaient de l'intelligence, et tout le peuple prêtait l'oreille au livre de la loi. Quand nous lisons la parole de Dieu, eh bien, il faut écouter, il faut prêter l'oreille. Et il nous est dit au verset 4, toujours de Néhémie, chapitre 8, que Esdras se tenait sur une estrade de bois qu'on avait faite pour l'occasion. C'est-à-dire qu'Esdras lisait, il était sur une estrade, c'est-à-dire que le livre de la loi était au-dessus de la tête de tout ce qui était présent. Et cela veut dire que la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, doit s'imposer à nos esprits. Nous avons chacun un esprit, des pensées. Eh bien, la parole de Dieu doit s'imposer à nos esprits pour que nous l'écoutions. Nous ne sommes pas libres, dans un sens, d'en faire ce que nous voulons. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui nous parle par sa parole, et nous devons écouter ce qu'il nous dit. Si nous revenons à 1 Timothée, chapitre 4, donc, attache-toi à la lecture, le verset 13, à l'exhortation, à l'enseignement. Une exhortation, consiste à appliquer la parole de Dieu au cœur et à la conscience afin que nous soyons éveillés pour agir justement. Et donc, la parole de Dieu qui est lue, attache-toi à la lecture et à l'exhortation. L'exhortation qui était demandée à Timothée, c'était pour que cette parole de Dieu touche les cœurs et touche les consciences de chacun, et que par ce moyen, nos cœurs soient éveillés, nos consciences soient éveillées, pour que notre marche soit une marche juste devant Dieu. Ce n'est pas pour meubler notre intelligence, mais l'exhortation, c'est pour que nous appliquions la parole de Dieu à notre vie. Enseigner, l'enseignement, c'est plutôt expliquer avec clarté la parole de Dieu afin que nous discernions la volonté de Dieu. Et l'enseignement est différent parce que nous avons besoin dans nos vies de comprendre et de connaître la volonté de Dieu. Si nous étudions dans la parole de Dieu, tout ce qui nous est dit sur la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu à notre égard, il y a deux grands sujets. Il y a la volonté de Dieu qui est présentée d'une manière générale pour tous les croyants, c'est-à-dire qui nous touche tous ensemble. Et puis il y a une série de versets qui appliquent, qui nous montrent que Dieu a sa volonté, mais qui est différente pour chacun de nous. Il y a des principes généraux, et il y a des principes particuliers qui s'adaptent à chaque chrétien. C'est-à-dire que, par exemple, dans le service du Seigneur, eh bien, le service d'un frère n'est pas forcément le même service que notre frère. Le service d'une sœur n'est pas forcément le service d'une autre sœur. Et donc, si nous faisons très attention à l'enseignement de la parole de Dieu pour que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu à notre égard, il y a des principes généraux qui sont pour tous, et il y a des principes particuliers qui doivent s'adapter à chacune de nos vies. Et donc, celui qui enseigne, eh bien, dans la mesure du possible, eh bien, il doit expliquer avec clarté pour qu'il y ait de l'édification dans l'assemblée.
La lecture de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus était l'exemple quand il, en Luc 4, versets 16 à 21, où le Seigneur a pris la parole et il a lu dans la parole, dans Isaïe 53, et voilà, à la fin ils disent, voilà, cette écriture est accomplie. Mais nous avons lu Acte 13, mais pour lire la parole de Dieu, il faut y avoir soif, soif de la parole. Et écoutez ce que la parole nous dit. Nous pouvons simplement lire ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit en Jean 7, versets 37 et 38. Le Seigneur parlait aux disciples. Il faut avoir soif de la parole. Jean 7, 37 et 38.
Jean 7, versets 37 et 38. Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. »
Celui qui a soif et qui croit en moi, voilà, des fleuves d'eau vive couleront sur son ventre. Mais je voudrais aussi rappeler que dans 1 Timothée 4, au verset 13, il dit aussi, « Sois le modèle des fidèles en parole, en conduite, en, et ainsi de suite. Sois le modèle des fidèles. » L'apôtre Paul pouvait écrire en Philippiens 3, verset 17. Pour lire Philippiens 3, verset 17, soit le modèle des fidèles.
Philippiens 3, verset 17. Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi, suivant le modèle que vous avez en nous.
Il faut être le modèle, mais il faut aussi lire la parole, et ce n'est pas seulement la lire, aussi l'appliquer pour soi-même et pour le bien de l'assemblée.
Je voudrais juste revenir dans l'évangile de Luc au chapitre 4, dont on vient de parler au moins à deux reprises. Je voudrais relire un verset dans Luc 4, la deuxième partie du verset 20. Donc le Seigneur vient de lire, il se rassoit. Et cette expression « et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. » Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas dans cette expression le but de l'enseignement, le but de la lecture de la parole de Dieu public? N'est-ce pas que tous les yeux de ceux qui sont présents soient arrêtés sur le Seigneur Jésus? Au fond, nous savons que si nous sondons la parole de Dieu, elle nous parle du Seigneur, elle nous révèle ce qui le concerne. Et le but de la lecture de la parole de Dieu, le but de la méditation de la parole de Dieu, le but de l'exhortation, de l'enseignement, eh bien, c'est que tous ici, nous ayons les yeux arrêtés sur lui. Le but, c'est de connaître le Seigneur Jésus, c'est de le présenter, c'est de le voir, Il faut que les yeux de notre foi, les yeux de notre cœur soient arrêtés sur lui. Voilà le vrai enseignement, la véritable exhortation, c'est que nous ayons nos yeux, les yeux de nos cœurs arrêtés sur la personne du Seigneur Jésus.
Juste une question. Pourquoi est-ce que c'est dit « Jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement » Pourquoi dans cet ordre-là? On pourrait dire « Faut déjà avoir l'enseignement pour avoir l'exhortation juste. » Est-ce qu'il y a quelque chose là derrière ou non?
Juste un bout de réponse. L'enseignement, là, au verset 13, on a une note au verset 16 quand il est dit « Sois attentif toi-même et à l'enseignement ». La note nous dit « À la doctrine ». Dans l'original, c'est le même mot. Dans les deux passages, c'est le didascalia, c'est le même mot. Donc enseignement, doctrine, ce sont des choses qui... On passe de l'un à l'autre. En enseignant, on aborde la doctrine. Et en exposant de la doctrine, on fait de l'enseignement, on enseigne, et on propose, on reformule des passages de la parole pour en faire les bases de ce qu'on va développer comme doctrine. Il n'y a pas une frontière brutale entre enseignement et doctrine. Alors que exhortation, c'est le même mot, c'est un mot qui a rapport avec l'Esprit Saint, le Consolateur. C'est la même famille que consolation, encouragement. Donc on a au fond deux registres qui sont, pour simplifier grandement, le cœur, la conscience, l'intelligence. Et toutes les deux trouvent leur base sur la parole qui est à la fois enseignement, doctrine, encouragement, etc. Quoi. Je ne sais pas s'il faut attacher beaucoup d'importance à l'ordre des choses dans le passage, si ce n'est que la lecture est mise en premier. Pour la suite, entre les deux, je ne suis pas sûr qu'il y ait une importance à donner à l'ordre dans lequel ces mots apparaissent. Mais bon, peut-être dire aussi autre chose.
Je ne veux pas dire le contraire, mais je pense que... Mais je pense quand même que l'exhortation, elle touche les cœurs et elle touche les consciences. Et ça me faisait penser, la question de Peg, c'est dans Luc 24, on voit que les disciples d'Emmaüs ont eu les yeux ouverts. Et ils ont pu dire que leur cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Et peut-être que l'exhortation, quand elle touche notre cœur, quand elle touche notre conscience, elle permet justement que nos cœurs brûlent et que le désir ainsi produit... c'est que nos regards se tournent à ce moment-là vers le Seigneur. Tandis que l'enseignement, c'est plus quelque chose qu'on mémorise, qu'on comprend, on va dire, intellectuellement dans nos esprits, on peut l'apprécier, on peut... Mais l'exhortation, c'est quelque chose qui va toucher notre cœur, c'est quelque chose qui va toucher notre conscience. Et à ce moment-là, peut-être que l'enseignement sera reçu peut-être plus facilement et nous serons peut-être plus convaincus par la doctrine et par l'enseignement qui sera donné à ce moment-là. Nous avons toujours besoin que nos cœurs soient engagés. Attache-toi à la lecture, une lecture publique, ce n'est pas pour meubler notre intelligence, notre mémoire, etc. Nous avons besoin que nos cœurs soient touchés, que nos consciences soient touchées pour mettre en pratique ce que nous avons entendu. Moi, je crois que je pense que c'est une bonne question. Alors le verset 14, Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains du corps des anciens. Alors c'est sans doute un passage un peu difficile. On peut lire aussi dans la deuxième épître à Timothée, au premier chapitre, au verset 6. C'est pourquoi je te rappelle, dit l'apôtre Paul à Timothée, c'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Il faut faire la distinction entre les deux passages. Il nous est dit au verset 14 du chapitre 4 de la première épître à Timothée, « Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains du corps des anciens. » La différence, c'est « avec », et dans deuxième épître à Timothée, au premier chapitre, verset 6, il nous est parlé du don de grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Si on comprend bien la signification de ce verset, qui est un peu difficile, ces deux versets qui sont mis en parallèle, il faut comprendre sans aucun doute que le don de grâce qu'avait reçu Timothée a été donné et reçu par l'imposition des mains de l'apôtre Paul. Et dans le Nouveau Testament, c'est un cas unique. On ne voit nulle part ailleurs une telle affirmation, c'est-à-dire que le don qui a été donné à Timothée, ça a été un don qui a été fait par l'imposition des mains de l'apôtre Paul. Si nous regardons dans les actes, si se retrouve le passage, Actes chapitre 13, premier verset, il y avait à Antioche dans l'assemblée qui était là des prophètes et des docteurs. Donc ces croyants avaient des dons de prophétie et des dons de docteurs, et ils sont cités. Et puis nous voyons au verset 2 que comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit: « Mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, ayant jeûné et prié et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Manifestement, dans ce passage, dans ces trois versets, nous voyons donc des croyants qui avaient des dons de prophétie et aussi d'enseignement, des docteurs, eh bien, ils sont mis de côté et ils vont partir au service. Et nous voyons que les anciens jeûnent, prient et leur imposent les mains et les laissent aller. Et alors, nous voyons que la signification ici, c'est plutôt une main d'association, c'est-à-dire ils s'associaient à eux. Ils étaient d'accord pour les laisser partir pour qu'ils puissent exercer leur don dans le service que le Seigneur allait leur donner. Et nous voyons donc une grande différence entre des manifestations de communion pratique dans le service par des anciens et aussi exceptionnellement et uniquement dans la seconde épître à Timothée, un don qui est transmis par l'imposition des mains. Donc la différence, c'est « par l'imposition des mains et avec l'imposition des mains, d'une signification bien différente.
En complément, par rapport à cette question d'imposition des mains, qui est un sujet qui peut être un peu critique parfois, on a un autre passage où c'est invoqué, mais dans un contexte qui convient de bien distinguer de ce qu'on vient de voir, en acte 8, quand les apôtres sont appelés, apprennent ce qui se passe en Samarie, où Philippe présentait l'évangile, et qu'ils viennent, il nous est dit, verset 17, nous verrons peut-être déjà lire avant, et bon, verset 14, « Or les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean, qui étant descendus, prièrent pour eux, pour qu'ils reçussent l'Esprit Saint, car il n'était encore tombé sur aucun d'eux, mais seulement ils avaient été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Puis ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. » C'est un cas particulier, en ce sens que se réalise ce que le Seigneur avait, ce qu'il nous a rapporté au début des Actes, chapitre 1er, verset 8, « Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » On a là trois étapes, Jérusalem, la Judée, pays juif, la Samarie, peuple qui connaissait l'Éternel en le servant à sa manière, et puis toute la terre habitée. Quand Pierre, le même Pierre, va être chez Corneille au chapitre 10, il n'est pas question d'imposition des mains. Il est simplement, l'Esprit-Saint tombe sur ses croyants, alors que Pierre parlait et n'avait encore rien pu faire, quoi. Manifestant à Pierre que les nations, c'est ce qu'il dira lui-même quand on lui demande des comptes, où il dit lui-même que voilà, vers la fin du chapitre 11, comme je commençais à parler, l'Esprit Saint tomba sur eux comme aussi il est tombé sur nous au commencement. Et je me souviens de la parole du Seigneur, comme il a dit, Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Donc le cas de Samarie et de Pierre est aussi, si on peut dire, un cas particulier où il y a cette imposition des mains qui intervient. Alors moi aussi j'ai une question, est-ce que le don de grâce de 1 Timothée 4 et le don de grâce de 2 Timothée est le même ou s'agit-il de dons différents? Ou est-ce qu'on peut, quelque chose nous laisserait supposer quelque chose ou...
Bon, je ne pense pas que ce soit deux dons différents, mais simplement que le corps des anciens reconnaissait que Timothée avait bien reçu ce don par le moyen de l'apôtre Paul. Alors la grande question, c'est ne néglige pas le don de grâce qui est en toi. C'est une question que tous les frères ici en particulier peuvent se poser. Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi. Si nous lisons dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4, il faut que je retrouve, voilà, verset 17, Colossiens 4, verset 17, et dites à Archip, prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur, afin que tu l'accomplisses. Tous les frères, ce matin, peuvent entendre la même chose. Hein? Prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur, afin que tu l'accomplisses. Alors là, c'était Archip. Alors je ne sais pas si on peut penser à la scène comme s'est déroulée. Il y a eu la lecture de l'Épître aux Colossiens, sans aucun doute public. Eh bien, il y avait des frères et des sœurs, et au milieu des frères et des sœurs, il y avait Archip. Et au moment des salutations, il entend ces paroles. de la part de l'apôtre et dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur afin que tu l'accomplisses. Archippe, alors je veux expliquer quelque chose sur le mot Archippe, et je tiens à cette explication du frère Paul Finet, qui était en Belgique, qui est délogé. Archippe, le nom vient de hip en grec, c'est le cheval. Et le frère Finet m'avait dit que c'était probablement un frère qui avait un élevage de chevaux. Et il était très pris par son travail. Et on est tous de plus en plus pris par les activités, sauf les retraités. Mais nos frères actifs encore qui travaillent, eh bien, ils n'ont peut-être pas d'élevage de chevaux, mais ils sont peut-être très actifs. Et dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur afin que tu l'accomplisses. Et si nous revenons à 1 Timothée 4, verset 14, ne néglige pas le don de grâce qui est en toi. Pour être actif dans l'assemblée, eh bien, il faut avoir reçu un don de la part du Seigneur. Il y a des dons différents. On pourrait relire 1 Corinthiens 12, ce sont des dons de grâce qui sont accordés par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Et chacun, nous avons reçu un service, d'abord un don et un service à accomplir de la part du Seigneur. Alors la question toujours, est-ce que ce don je l'exerce ou je ne l'exerce pas? Est-ce que je suis négligent ou est-ce que je ne suis pas négligent? Et nous ne savons pas en réalité quel était le don de Timothée, mais nous n'avons peut-être pas besoin de le savoir. Nous savons que l'apôtre, dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, il rappelle à Timothée de faire l'œuvre de l'évangéliste. Est-ce que Timothée était peut-être un pasteur, peut-être un docteur, peut-être aussi en plus un évangéliste? Nous ne le savons pas, et sans doute que nous n'avons peut-être pas besoin de le savoir. Mais l'important, c'est ne néglige pas le don de grâce. Et nous pouvons le négliger parce que nous sommes trop actifs, nous pouvons le négliger parce que nous sommes timides, nous pouvons le négliger parce que nous ne nous nourrissons pas assez de la parole de Dieu, mais n'oublions pas cette injonction, pour ainsi dire, de l'apôtre à Timothée, ne néglige pas le don de grâce.
Il y a des dons de grâce différents. On peut lire Romains 12, versets 6 à 8.
Romains 12, versets 6 à 8. Or, ayant des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Soit le service, soyons occupés du service. Soit celui qui enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement. Soit celui qui exhorte, à l'exhortation. Celui qui distribue, qu'il le fasse en simplicité. Celui qui est à la tête, qu'il conduise soigneusement. Celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement.
Don de grâce différent. Et l'apôtre dit à Timothée, néglige pas le don de grâce qui est en toi.
en contraste avec négliger ou la nécessité de ranimer, on peut lire ce que Paul écrivait aux Corinthiens. Le passage ne traite pas vraiment de ce sujet-là, mais il est amené à rappeler dans le chapitre 9, où il justifie sa marche, et en particulier qui n'avait pas dépendu matériellement des Corinthiens. Et il a dit à quelques expressions dans ce chapitre qui sont bien utiles à prendre en compte. Verset 16. « Car si j'évangélise, je n'ai pas de quoi me glorifier, car c'est une nécessité qui m'est imposée, car malheur à moi si je n'évangélise pas. » Voilà comment Paul percevait la portée de la mission, du service que le Seigneur lui avait confié. Il continue, « Car si je fais cela volontairement, j'en ai un salaire, mais c'est malgré moi, une administration m'est confiée. » La pleine conscience que ce n'était pas un choix personnel de faire ce qu'il faisait. Non, il marchait dans ce que le Seigneur lui avait demandé, dans ce que le Seigneur avait préparé comme chemin pour lui. Quel est donc mon salaire? C'est qu'en évangélisant, oui, après il repart sur l'autre sujet, il y a encore une expression un peu plus loin. On peut juste dire au verset 19, « Car étant libre à l'égard de tous, je me suis asservi à tous afin de gagner le plus de gens. » L'engagement qui le fait complètement s'oublier lui-même. Et puis au premier chapitre, en complément, il évoque le fait que personne n'a été baptisé en son nom, et il dit même, verset 14 du chapitre 1er, « Je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que j'ai baptisé pour mon nom. » Après, il évoque la maison de Stéphanas, puis verset 17, « Car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangélisé. » Il y a une distinction claire qu'il fait quant au service que le Seigneur lui a confié et ce que le Seigneur ne lui a pas spécialement demandé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais baptisé, il le dit lui-même. Mais sa mission n'était pas d'aller baptiser. Là, sa mission était d'évangéliser. Donc un don de grâce, et il y a un point sur lequel, je me souviens étant plus jeune, j'ai dû poser la question une fois à un frère, mais comment est-ce qu'on reconnaît quel don nous a donné? Et puis, le Seigneur te montrera. Voilà la réponse qu'on reçoit en général. Voilà. Mais quelle réponse peut-on donner autrement? Quelque part, nous devons chacun, avec le Seigneur, marcher. Et le Seigneur, petit à petit, nous fait comprendre que voilà, c'est ça que je voudrais de toi. Ça ne veut pas dire que nous allons faire que ça. Paul a évangélisé, il a aussi enseigné. Il a exhorté, il a enseigné la doctrine. Il n'a pas fait que évangéliser. Mais là, dans les Corinthiens, il évoque particulièrement ce service qu'il avait eu d'apporter l'évangile aux nations. Serviteur, apôtre des incirconcis des nations, comme c'est dit dans les Galates. Donc il y a quelque chose de marqué, de plus marqué, et puis bien sûr des tas d'autres choses. Fait l'œuvre d'un évangéliste, comme il a dit à Timothée, comme il l'a rappelé, c'est, si on peut dire, un aspect collatéral de son service. Quand l'occasion se présente d'un besoin d'évangéliser, ben, il faut y répondre. Voilà. Mais comme dit, nous devons aussi peut-être un peu nous détacher de ce qu'on voit tout de suite, les services visibles, les dons de grâce visibles, les choses enseignées, par exemple, des choses qui se voient. Et puis aussi ne pas oublier qu'enseigner, c'est un service. On est là en tant que serviteur pour enseigner. On n'est pas là en tant que la parole utilise le terme de conducteur, mais ça ne veut pas dire qu'on est le chef qui commande. Faire bien cette distinction, l'homme naturel, il veut un leader qui le conduit et qui est parfait, bien sûr. La parole dit non. Le Seigneur veut des serviteurs qui sont des modèles. C'est tout à fait différent. Et chacun doit avoir cet exercice. Qu'est-ce que le Seigneur m'a demandé de faire ?
Juste un petit complément à ce que vient de dire Jacques, un verset dans 1 Corinthiens 15, au milieu du verset 10. C'est l'apôtre qui parle. J'ai travaillé beaucoup plus que tous. J'ai travaillé beaucoup plus que tous. Mais il dit, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Un serviteur, quand il travaille, ou quand un serviteur exerce un don, eh bien, il faut se souvenir que, bien sûr, c'est lui qui travaille. Et Paul peut dire qu'il avait travaillé beaucoup plus que tous. Mais c'était la grâce de Dieu qui travaillait avec lui. La grâce de Dieu qui travaille avec moi.
On peut peut-être juste mentionner, là on a parlé des dons, et on a parlé tout à l'heure qu'on a tous un don, mais on peut juste peut-être rappeler ce qu'on avait lu au chapitre 2, verset 8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. » Donc là, d'après ce que je comprends bien, la prière n'est pas un don. Vous me corrigerez si je me trompe. Et donc, si les hommes doivent prier en tout lieu, si on pense par exemple aux réunions de prière, ce serait heureux, pour pas dire normal, que tous les frères prient. Pour ça, déjà, faut y être présent, mais aussi, en plus, ce serait heureux que tous les frères prient.
Occupe-toi de ces choses et sois-y tout entier. Sois-y tout entier. C'est un enseignement qui nous touche tous. Timothée était exhorté à s'occuper des choses de Dieu. Mais sois-y tout entier, c'est d'une manière exclusive. C'est-à-dire, il devait être un homme d'une seule chose. Et avec un cœur non partagé. Et quand on voit de telles expressions, est-ce que nous sommes tout entiers pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes tout entiers à son service? Est-ce que nous nous occupons exclusivement des choses de Dieu? Alors on peut dire, ben oui, mais on doit travailler. Mais oui, mais les mais, là, on peut les mettre, là. Mais l'exhortation de l'apôtre, c'est « Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier. » Un serviteur, une servante de Christ, eh bien, elle doit être tout entier, tout entière au service du Seigneur. Et tout entier, ça veut dire sans distraction. Ça veut dire se préoccuper des intérêts de son maître. Ça veut dire vivre et travailler pour son Seigneur. Et c'est la caractéristique d'un serviteur qui va être utile au maître. Est-ce que nous avons ce saint désir de travailler exclusivement pour le Seigneur? Est-ce que nous avons ce désir de nous y consacrer, c'est ça la consécration, et d'y être tout entier?
Afin que tes progrès soient évidents à tous. Cela rejoint ce qu'on avait un petit peu plus haut. Sois le modèle des fidèles. un don de grâce n'est pas une espèce de capacité, une connaissance complète qu'on reçoit tout d'un coup. C'est une marche avec le Seigneur, où, dans une activité, dans des activités, où on apprend. Et on apprend toute notre vie. La parole, la vérité, ce que Dieu donne à connaître de lui-même, c'est insondable. Nous avons toujours, tout le temps, quelque chose à apprendre. Nous ne sommes jamais arrivés à un état de plénitude où nous n'avons plus rien à apprendre. Ce sera quand nous serons avec le Seigneur. Mais là, tant que nous sommes sur la terre, nous avons tous à la fois des limitations et puis un cheminement à faire, apprendre du Seigneur, apprendre avec lui. Et donc, il y a des progrès. Et ces progrès, justement, demandent cet investissement. Sois-y tout entier afin que tes progrès, afin que tu progresses, on pourrait dire, mais pas non seulement que tu progresses, mais que ces progrès soient visibles dans ton service. Et ça rejoint vraiment, c'est un peu une boucle qu'on peut faire entre l'exhortation, soit le modèle des fidèles, et puis sois attentif avant, occupe-toi de ces choses, sois-y entier pour que tu progresses, pour devenir et être et demeurer ce modèle en toutes ces choses. C'est, comme dit, j'insiste un peu là-dessus, ce n'est pas un état auquel on est arrivé, c'est une dynamique où on est tout le temps à devoir s'investir dans quelque chose, recomprendre quelque chose pour aller plus loin, pour avancer. Et ça fait partie de ce que nous montrons autour de nous, aussi bien à ceux qui nous connaissent qu'à ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent, quoi. Mais quelque part, c'est important de s'en souvenir, mais en même temps, je dirais, ce n'est pas quelque chose dont il ne faut non plus se préoccuper qu'il y ait des progrès visibles. Non. C'est se préoccuper d'être là où le Seigneur veut nous voir et de faire des progrès dans sa connaissance, dans la connaissance de lui-même. Des vrais progrès qui, eux, seront de fait visibles, forcément.
Verset 16. Sois attentif à toi-même et à l'enseignement. Sois attentif à toi-même nous parle du jugement de soi. Ici, c'est bien sûr en rapport avec le don de grâce qui devait être exercé par Timothée, et donc le jugement personnel de soi. Mais il y a sans aucun doute un enseignement pour chacun de nous, pour nous tous. Sois attentif à toi-même. Et nous sommes appelés à avoir un jugement continuel de nous-mêmes. Et nous avons d'autres expressions similaires dans la parole de Dieu. En acte 20, il nous est dit à propos des anciens qui devaient prendre garde à eux-mêmes. Prenez garde à vous-mêmes. C'est la même expression. Mais ce sont des expressions aussi que... Et un enseignement que nous trouvons dans l'Ancien Testament et qui concerne les croyants de toutes les dispensations. Sois attentif à nous-mêmes. Le jugement de soi-même, c'est avoir conscience que nous nous tenons toujours devant Dieu, que nous sommes toujours, même si nous n'en sommes peut-être pas tout le temps conscients, mais nous marchons, nous sommes toujours devant Dieu. Et quand nous avons cette perception que nous sommes devant Dieu, eh bien, il faut que nous soyons attentifs à nous-mêmes. Je pourrais lire dans l'Ancien Testament en particulier, il y a cette expression dans Job au chapitre 33. Verset 31. Sois attentif, Job. Sois attentif, Job. Savons que l'Éternel lui parlait et il était éprouvé. Et donc, nous savons que Dieu va se servir d'Éliu en particulier. Et donc, par l'intermédiaire d'Éliu, eh bien, il lui dit « Sois attentif, Job ». Et alors, au chapitre 34, au verset 32, nous voyons cette belle expression dans la bouche de Job. Job 34, verset 32, « Ce que je ne vois pas, montre-le-moi. » Ce que je ne vois pas, montre-le-moi. Le jugement de soi est sans aucun doute un des exercices les plus utiles et les plus sains dans la vie du croyant. Nous avons un enseignement, peut-être qu'on y reviendra dans 1 Corinthiens 11, en rapport avec la scène du Seigneur, de s'examiner soi-même. Mais nous voyons dans l'Ancien Testament et aussi dans les Épîtres en particulier, même dans les Évangiles, hein, quand le Seigneur parle de la poutre qui est dans notre œil, eh bien, nous avons ce travail de ôter la poutre qui est dans notre œil. Eh bien, le jugement de soi-même, c'est aussi de ôter la poutre qui est dans notre œil. Et le jugement de soi-même, ce n'est pas pour savoir si nous sommes un chrétien ou si nous ne le sommes pas, si nous sommes sauvés ou si nous ne le sommes pas sauvés, mais c'est s'examiner soi-même continuellement pour voir si nous marchons dans les voies de Dieu soigneusement. Et donc nous sommes appelés à nous juger nous-mêmes, que ce soit les chrétiens les plus âgés ou les plus jeunes, eh bien, nous avons sans doute une quantité de choses chacun à juger. Ça peut être l'irritabilité, on peut être irritable dans le particulier, c'est quelque chose à juger. Ça peut être la paresse, nous pouvons être des paresseux, nous n'avons pas à cœur de lire la parole de Dieu, c'est quelque chose à juger. La fierté, la vanité, peut-être dans les relations entre frères, la vivacité, prêt toujours à répondre vivement à notre frère. Et c'est sans doute des petites choses dans la vie du chrétien qui entraînent sans doute un déclin. Ça peut être un déclin personnel, mais ça peut être aussi un déclin ensuite qui devient public. Et donc, si nous regardons en particulier dans l'Exode, la cuve d'airain, nous voyons que la cuve d'airain, eh bien, les sacrificateurs étaient appelés à laver leurs pieds et à laver leurs mains dans la cuve d'airain avant d'exercer leurs fonctions. Les pieds, c'est en rapport avec la marche. Et donc, nous sommes appelés aussi à juger notre marche. Est-ce que nous marchons soigneusement? Sois attentif à toi-même et se laver les mains. Les mains, c'est en rapport avec le service. Et alors, peut-être qu'on peut dire quelque chose qui n'est pas toujours très connu dans Exode au chapitre 38. Je crois que c'est 38. Oui. 38, verset 8. Il nous est dit, et il fit la cuve d'airain et son soubassement d'airain avec les miroirs des femmes qui s'attroupaient à l'entrée de la tente d'assignation. La parole de Dieu dans ce verset qui nous parle bien sûr toujours du jugement de soi-même qui était commandé par Dieu dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire de scruter nos voies, considérer nos voies, considérer l'état de nos cœurs. Eh bien, nous voyons que au verset 8 du chapitre 38 de l'Exode, que la cuve des reins, eh bien, elle avait été faite avec les miroirs des femmes. Et la parole de Dieu est très précise. Qu'est-ce que évoque le miroir des femmes? Pourquoi une femme se regarde dans le miroir? Eh bien, ça évoque la vanité. Ça évoque aussi le souci de l'apparence. Et au fond, nous avons un enseignement qui est très précis. C'est sois attentif à toi-même. Cela veut dire que souvent, on a le souci de notre apparence. On veut montrer à nos frères, à nos sœurs, notre bon côté, notre côté vraiment... c'est-à-dire le bon côté, mais en réalité, il faut un jugement de nous-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on présente, l'apparence qu'on présente doit correspondre à notre état intérieur. Et l'enseignement de Exode 38, verset 8, eh bien, c'est que notre état apparent, ce que nous montrons les uns aux autres, et bien que cela corresponde à notre état intérieur. Sois attentif à toi-même, c'est-à-dire ce que nous montrons les uns aux autres, et bien il faut que ça corresponde véritablement à notre état intérieur. Et après, dans 2 Corinthiens, dans la deuxième épître à Timothée, nous voyons que il y a une grande dissociation entre l'apparence des chrétiens et ce qu'il y avait à l'intérieur. Eh bien, ce sont des enseignements qui sont très précieux, mais c'est aussi des exhortations et des mises en garde pour chacun de nous, hein, tous, hein, et que nous soyons attentifs à nous-mêmes. Être attentif à soi-même, ce n'est pas une occupation de soi. Dieu ne veut pas qu'on s'occupe toujours de nous. Hein. On peut être un chrétien qui parle toujours de lui, hein, ou une chrétienne qui parle toujours d'elle. Non, non, c'est le jugement de soi-même, ce n'est pas être occupé de soi. C'est être en adéquation entre ce que nous montrons et notre état intérieur. Il ne faut pas confondre les deux choses, bien sûr.